إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى dit dans son noble livre: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis ce qui t'est révélé, ton Seigneur est le munificent, qui a appris à l'homme l'écriture au moyen de la plume, qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces nobles versets du Saint-Coran sont les premiers qui ont été révélés au sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qui lui fut révélée du Coran contenait ainsi un grand intérêt pour la science. C'est même l'expression et le résumé du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car son message sallallahu alayhi wa sallam est un message de science et de connaissance, et sa religion sallallahu alayhi wa sallam est une religion de science et de connaissance. La religion et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont d'ailleurs basés uniquement sur la science et la connaissance. Le premier mot qu'Allah tabaraka wa ta'ala a adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc iqra, lis. C'est-à-dire, ô Muhammad, lis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Lis et transmets aux hommes ce que leur Seigneur tabaraka wa ta'ala souhaite et ce qu'il leur a révélé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur. En implorant son aide, tabaraka wa ta'ala, car il n'y a de force et de puissance que par Allah azza wa jal. En effet, on ne peut rien accomplir, et cela peu importe ce que c'est, si ce n'est par la puissance et la force d'Allah azza wa jal. Oh Muhammad, si Allah azza wa jal ne t'avait donc pas donné la capacité de lire, tu n'aurais pas pu lire. Si Allah azza wa jal ne t'avait pas donné la capacité de transmettre, tu n'aurais pas pu transmettre le message. Et sans les grâces innombrables d'Allah Azza wa Jal et ses faveurs incommensurables envers toi, de t'avoir accordé le statut de prophète et de messager, tu n'aurais rien acquis de tout cela. Car la prophétie est purement une grâce d'Allah Azza wa Jal qui l'accorde à qui en vaut vraiment la peine. Ensuite, dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est fait connaître et s'est décrit à ses créatures avec le plus explicite caractéristique de la seigneurie qui est la création. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur. Qui est donc ce Seigneur? Comment savons-nous que nous avons un Seigneur qui nous a envoyé un messager et nous a révélé un livre? Quels sont les signes qui nous permettent de le distinguer tabaraka wa ta'ala? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur qui a tout créé. La création est donc le plus explicite caractéristique de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et la plus évidente preuve de l'existence d'un Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés et l'univers autour de nous a été créé du néant. Chaque action a effectivement un acteur. Chaque créature a obligatoirement un créateur. Il y a donc bel et bien un Seigneur immense et omnipotent qui a créé toutes ces créatures, et cela à partir du néant. Si le serviteur est alors attentif et médite, il admettra qu'il a un Seigneur qui l'a créé du néant. Il reconnaîtra aussi que ce Créateur a un droit important sur lui, car il n'est point en accord avec la sagesse de ce Créateur et sa Seigneurie d'engendrer des créatures du néant pour les laisser comme ça sans aucun but ni devoir, sans commandement ni interdiction, sans récompense ni punition. Voilà tous les sens qu'enferme ce noble verset de quelques mots. Aussi, la manifestation ou la manifeste création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa création de l'homme. En effet, la création de l'homme est la chose la plus percevable dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, de sorte à établir les preuves contre lui. Le message ici s'adresse à l'homme, il concerne l'humanité. Si Allah tabaraka wa ta'ala souhaite alors établir les preuves contre la création, il les établit contre eux en leur montrant sa création de l'homme. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur qui a tout créé. Mais quelle est cette création à laquelle il est ici fait référence? Qu'est-ce que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a créé? Il dit juste après « Subhanahu wa ta'ala khalaqa al-insana min alaq » qui a créé l'homme d'un caillou de sang. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'a alors pas mentionné les cieux, ni la terre, les montagnes ou les océans? Allah azza wa jal a spécifiquement mentionné l'homme parce que le message lui est adressé. Aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « khalaqa al-insana min alaq » qui a créé l'homme d'un caillou de sang, cela signifie qu'Allah azza wa jal a créé l'homme à partir d'un liquide insignifiant qui n'a pas de valeur. Al-alaqa est un caillou de sang qui était au début un spermatozoïde et qui est ensuite devenu un morceau de chair et d'os jusqu'à devenir un homme parfait par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Observez donc et méditez sur cette preuve manifeste. Ceci est le premier message d'Allah tabaraka wa ta'ala à la création. Les premiers mots du Coran qui ont été révélés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait donc que la preuve pour l'humanité soit extrêmement claire et évidente. Ikhwati al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Iqra » Lis ce qui t'est révélé. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a donc répété l'ordre de lire, le commandement de s'instruire en religion. « Iqra wa rabbuka al-akram » Lis ce qui t'est révélé, ton Seigneur est le munificent. Ô Muhammad, ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'un caillou de sang, celui qui vient à l'instant de se faire connaître auprès de toi et des hommes, et s'est décrit avec le caractéristique le plus évident de sa seigneurie et avec la preuve la plus percevable de son existence, ce Seigneur-là, tabaraka wa ta'ala, est le généreux par excellence, le munificent. En effet, Allah Azza wa Jal n'est pas simplement généreux, mais il est, tabaraka wa ta'ala, le plus généreux, le généreux par excellence. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'il est, tabaraka wa ta'ala, celui qui accorde à toutes ses créatures, croyantes et non-croyantes, obéissantes et désobéissantes, la subsistance de ses trésors qui ni ne s'épuisent ni ne périssent? Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son noble livre « Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq » Ce que vous possédez s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Toute cette subsistance, tous ces bienfaits et ces grâces dans lesquelles nous nous mouvons largement nuit et jour ne sont en réalité qu'une petite partie de ce qui est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, le généreux est celui qui récompense en donnant plus. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est de ce fait le généreux par excellence. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre « Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan » Y a-t-il autre récompense à la bienfaisance dans les œuvres ici-bas que la bienfaisance dans la récompense de l'au-delà? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-hasana bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati da'f ila ad'afin kathira » Toute bonne action est inscrite au décuple jusqu'à 700 fois plus ou encore davantage. Et dans un autre hadith, فَمَنْ هَمَّا بِحَسَنَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Celui qui envisage d'accomplir une bonne œuvre sans la réaliser, Allah la lui consignera comme une bonne œuvre complète. Qui fait cela? Quelle créature se caractérise-t-il? Quelle créature se caractérise par un tel degré de générosité? C'est pourquoi notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est le munificent, al-akram, le généreux par excellence. Il est celui qui a le plus haut degré de générosité. La générosité de notre Seigneur se reflète aussi dans le fait d'avoir accordé la révélation à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'avoir choisi lui sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre la religion et avertir les gens. Ceci n'est-il pas généreux? Cela est la raison pour laquelle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala à son égard et qu'il était le plus reconnaissant de toutes les créatures sallallahu alayhi wa sallam. Il passait ses nuits debout en prière jusqu'au point de fendiller la plante de ses pieds. Et ceci n'est qu'un aperçu de la gratitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les bienfaits de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, lorsque son épouse Aïcha radiallahu anha le questionnait à ce sujet et lui disait « Mais pourquoi agir ainsi alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondait sallallahu alayhi wa sallam « Afala akunu abdan shakura ?» Ne puis-je pas être un serviteur reconnaissant? Comment se fait-il de ce fait que nous remercions si peu notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour ses innombrables bienfaits dont il nous fait généreusement grâce? Alors qu'en plus, notre Seigneur Azza wa Jal n'a pas exigé que nous le remercions à hauteur de son droit Tabaraka wa Ta'ala et des bienfaits dont il nous fait grâce. Car il sait Tabaraka wa Ta'ala que s'il nous avait imposé cela, nous n'y serions pas arrivés et nous n'aurions pas supporté. En effet, comment pourrions-nous supporter une telle charge alors qu'il faudrait pour le remercier tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur que nous restions toute notre vie en adoration, à le prier, l'invoquer et le remercier sans arrêt ni interruption. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala s'est alors contenté de bien moins que cela, de bien moins que ce que nous devrions faire pour le remercier convenablement de ses immenses grâces à notre égard. Ne soyons alors pas du nombre des ingrats. Montrons-nous reconnaissants envers Allah tabaraka wa ta'ala. Remercions-le subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits dont il nous fait généreusement grâce. Observons et méditons sur la générosité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Observons et méditons sur l'immense bonté de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala ainsi que ses innombrables bienfaits et ses incommensurables grâces. Ainsi, nous nous rendrons compte pourquoi cela exige de la gratitude et à quel point nous devons nous montrer reconnaissants envers lui tabaraka wa ta'ala, le louer, l'invoquer et l'adorer. Aussi, l'une des grâces qui démontre le mieux l'immense générosité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est qu'il a donné à l'homme le meilleur des bienfaits qui est celui de la science. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis ce qui t'est révélé, ton Seigneur est le munificent. Le munificent qui a fait quoi? Quelle est la preuve de son immense générosité? Quel est le signe qui montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le généreux par excellence? Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dit après cela, alladhi 'allam, qui a appris à l'homme. Il fait donc partie de l'immense générosité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala d'avoir enseigné à l'homme, de l'avoir sorti de l'ignorance, de lui avoir clarifié la guidée et la vérité. Voilà donc la plus grande bénédiction et la plus immense manifestation de l'immense générosité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala envers l'homme. Alladhi 'allama bil qalam, qui a appris à l'homme l'écriture au moyen de la plume. Pourquoi la plume? Parce que celle-ci est l'un des moyens d'enseignement. Il y a donc dans ce verset une belle indication démontrant l'importance de noter la science. Certes, la science peut être acquise par l'écoute et la mémorisation. L'écriture n'est donc pas indispensable pour apprendre. Cependant, la mémoire est traître et l'homme est enclin à l'oubli. C'est ainsi qu'est sa nature. Et de la sorte, il a été créé. L'homme a donc besoin de moyens pour conserver ses connaissances. La science est donc l'un des innombrables bienfaits dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait généreusement grâce. Il nous faut alors le préserver. Et comment allons-nous préserver cette science et ne pas l'oublier? Nous allons la garder en sécurité en l'écrivant. Comme le poème dit, « Al-ilmu sayyidun wal-kitabatu qayduhu. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تردها بين الخلائق طالقة. La science est comme la chasse, et l'écriture est ses chaînes. Attache alors ton gibier avec des cordes sûres. Il est certes stupide de chasser un cerf, puis de le laisser libre au milieu des créatures. Effectivement, celui qui chasse un animal, il ne le laisse pas vaquer librement une fois qu'il l'a attrapé. Personne ne fait ça. Sinon, l'animal s'en irait d'où est-ce qu'il est venu. Il en est alors de même avec la science. L'apprentissage de la science est une quête comme on chasse un trésor. Comment alors la personne ne peut-elle pas tout mettre en œuvre pour la préserver lorsqu'elle l'a acquis ? الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Qui a appris à l'homme l'écriture, au moyen de la plume qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voici donc le passage évoquant la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses créatures. Car l'homme, s'il avait été créé savant, quel serait alors le bienfait ? La grâce est une chose que la personne ne possède pas et qu'elle acquiert ensuite. L'homme n'a donc pas été créé savant, mais il a plutôt été créé ignorant. Comme notre Seigneur tabaraka wa ta'ala l'a dit dans son humble livre, « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. » Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout savoir. Ceci est donc la nature de l'homme. Il a été créé ignorant, sans aucune connaissance. Qui lui a alors appris ? Qui lui a fait comprendre ? Qui lui a clarifié ? Pour trouver les réponses à ces questions, il faut retourner au Père des hommes et à leur origine. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » Allah a appris à Adam le nom de chaque chose. Qui est-ce qui a donc enseigné à Adam alayhi salam ? Adam alayhi salam a appris de qui ? Y avait-il quelqu'un avant Adam alayhi salam pour qu'il apprenne auprès de lui ? C'est Allah seul, tabaraka wa ta'ala, qui lui a tout enseigné. Et ensuite, Adam alayhi salam a transmis les enseignements d'Allah tabaraka wa ta'ala à ses enfants, qui à leur tour les ont transmis à leurs enfants, et ainsi de suite de génération en génération. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala علم الإنسان ما لم يعلم qui a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Nous devons donc nous rappeler à quel point nous étions ignorants et nous rappeler à quel point nous étions égarés jusqu'à ce que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous accorde la guidée, la connaissance et la compréhension. Allah azza wa jalla a d'ailleurs rappelé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit tabaraka wa ta'ala dans un autre verset de son noble livre Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada. Allah ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accordé un refuge auprès de tes soutiens, trouvé ignorant de toute prescription divine et guidée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait alors aucune connaissance de cette religion ni de ses détails. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans l'autre verset, « Ma kunta tadri mal kitab wal al-iman » Tu n'avais auparavant aucune connaissance du livre et de la foi. D'où est donc venue la connaissance de ces choses ? D'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a lui ensuite sallallahu alayhi wa sallam enseigné ses connaissances à ses compagnons radiyallahu anhum. Puis ses compagnons, radiallahu anhum, les ont à leur tour transmises à leurs compagnons, et ainsi de suite, de génération en génération, jusqu'à ce que la religion nous parvienne. La science est alors un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nécessite et exige de la reconnaissance et de la gratitude de notre part. Nous devons remercier notre Seigneur tabaraka wa ta'ala pour cet immense bienfait dont il nous a généreusement fait grâce subhanahu wa ta'ala. Nous devons aussi être conscients de l'importance de la science et que notre religion est une religion de science et que la première chose qui a été révélée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est la connaissance. Si nous méditons sur cela et l'apprécions à sa juste valeur, nous connaîtrons alors l'ampleur de cet immense bienfait qu'est la science dont Allah azza wa jal nous a généreusement fait grâce Alors aussi, nous remercierons notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala comme il se doit pour celui-ci, en multipliant les efforts dans l'apprentissage de la science et sa mise en pratique. Voilà la cause de notre force et de notre succès. Ikhwatil Kiram, la science est la cause de réussite, de gloire et de prospérité de toutes les communautés. Aucune nation n'a trouvé le succès et n'a été forte si ce n'est par le biais de la science. En effet, si nous examinons les communautés les unes après les autres à travers les siècles, nous arriverons obligatoirement à ce constat. D'ailleurs, comment pourrions-nous arriver à un autre constat alors que si nous observons toutes les raisons qui ont causé la force, le succès et la réussite des nations, nous voyons qu'elles ont toujours été fondées sur la connaissance. Il n'y a absolument aucune raison qui mène à la force, le succès et la réussite humaine sans qu'elle ne soit basée sur la connaissance. La preuve la plus explicite et pertinente de cela est la religion. Une personne n'est rien sans religion. Elle n'a aucune valeur. Et notre religion, elle n'est pas basée sur l'ignorance. Elle a impérativement été basée sur la science pour que nous réussissions à la comprendre correctement. Sans quoi, chacun dirait ce qu'il veut et adorerait comme bon lui semble. C'est pourquoi notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a dit dans son noble livre وَهَذَا سِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Telle est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci se constate aussi dans les choses mondaines, que ce soit dans l'économie, le domaine militaire, politique, éducatif, sanitaire et autres. Tous ces domaines sont basés sur la connaissance. Personne ne peut devenir fort en économie sans apprendre les rudiments, les fondements et les règles de ce domaine et connaître les causes qui permettent de réussir et atteindre une économie forte. C'est donc par le biais de la science qu'on peut accéder à ce résultat. Ainsi, toute notre vie est basée sur la science. Que ce soit notre réussite, notre force et notre succès, tout cela est basé sur la connaissance. Sans la science, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne trouvons pas la réussite et le succès. Nous prenons du retard et reculons. Et les ennemis de l'islam et de la sunna nous dominent. Lorsqu'on regarde les périodes de l'histoire, on constate en effet que les musulmans n'ont jamais dominé et trouvé de succès sans connaissance. Même dans le domaine économique, militaire et autres, cela était basé sur la connaissance. D'ailleurs, lorsque les ennemis de l'islam et de la sunna ont comparé leur situation avec la situation des musulmans dans les périodes les plus sombres de l'histoire, qu'ils appellent le Moyen-Âge, l'ère de l'ignorance, ils ont pris conscience que la cause de la force, de la réussite et du succès des musulmans était le savoir. Ils se sont dès lors efforcés de l'acquérir et d'en interdire les musulmans. Regardez à l'époque de l'imam Ahmed, de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou encore lorsque les pays colonisateurs sont partis au Maghreb et dans les autres pays musulmans d'Afrique. À chaque fois, ils ont déployé tous les moyens pour interdire aux musulmans l'accès à la science. Soit en brûlant les livres, en exécutant les savants et les emprisonnant, en interdisant les écoles aux musulmans et autres. Nous constatons donc que les ennemis de l'islam et de la sunna se sont toujours employés et ont tout le temps cherché à empêcher aux musulmans l'accès à la science. Tristement, vient s'ajouter à ce combat des ennemis de l'islam et de la sunna le fait que de nos jours, les musulmans eux-mêmes n'accordent plus assez d'intérêt et celui qu'ils devraient à la science. Même chez ceux qui s'affilient à la sunna malheureusement. On en voit qui portent le qamis ou le djilbab et s'affilient à la sunna depuis des années, mais à côté de cela, ils ne parlent toujours pas l'arabe et ne font pas assez d'efforts pour l'acquérir. Ils n'ont toujours pas terminé de mémoriser le Coran et certains livres de base de hadith. Les rudiments de leur religion, ils ne les maîtrisent pas. Mais malgré cela, avec les réseaux sociaux et internet, on en voit certains avoir l'audace de tenir des comptes de rappel, faire des exhortations et s'adonner à des responsabilités alors qu'ils n'ont que quelques connaissances prises à droite et à gauche, des copier-coller. Toute la journée, ils publient et partagent sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne connaissent que quelques sonates du Coran et Hadith. Ils polémiquent sur des sujets de fiqh et autres alors qu'ils n'ont même pas étudié les fondements de cette science, ni même un livre dans ce domaine. Ils ne connaissent même pas les preuves et n'ont pas les outils pour les comprendre. Ils font des réfutations et autres, alors qu'ils n'ont même pas étudié la terminologie du hadith et les règles de la critique et l'éloge, et ne sont pas connus par des savants et recommandés par eux. Ils s'adonnent et se préoccupent de choses qui les détournent de la véritable science et les dépassent. C'est la principale raison pour laquelle ils sont dans cet état depuis toutes ces années, et qu'ils n'avancent pas. Car pour acquérir la science, il ne suffit pas d'avoir des prétentions et revendications. Taper des mots-clés sur un moteur de recherche et faire des copier-coller sur des sites ici et là, ou encore piocher des connaissances à droite et à gauche, ça c'est ce qu'on appelle al-muta'alimun. Pour acquérir véritablement la science, il faut avoir de la détermination, déployer des efforts et passer obligatoirement par certaines étapes. Il faut étudier auprès des gens de science, en commençant par les fondements, noter, mémoriser, réviser. C'est ainsi qu'on acquiert la science. Et cela, peu importe le domaine et le sujet d'étude. Il faut donc que les musulmans accordent plus d'intérêt à la science et son étude. Sans quoi, les générations à venir n'accorderont plus aucun intérêt à la science. De nos jours, on constate déjà que les jeunes accordent de moins en moins d'intérêt à l'étude de la science, à l'apprentissage, à la mémorisation, à la révision. Même dans l'étude des sciences mondaines, on entend de plus en plus dire que la science et les diplômes n'apportent pas à manger et ne font pas devenir riches. À quoi bon alors étudier et se fatiguer? Car de toute façon, ce n'est pas en étudiant et en ayant des diplômes qu'on obtient un travail et de l'argent. Voilà les paroles qu'on entend et les idées qui s'enracinent au fur et à mesure dans l'esprit de la jeunesse musulmane. Que pouvons-nous alors attendre de cette jeunesse si nous la laissons ainsi et laissons ces idées s'installer dans leur tête? De partout, on fait aujourd'hui croire aux jeunes que la réussite s'obtient avec l'argent, que celui qui a réussi, c'est celui qui est riche, celui qui vit aisément, celui qui mène une vie de luxe. Les jeunes ne veulent donc plus étudier. Même dans des domaines qui étaient avant prisés, tels que la médecine, l'ingénierie, l'enseignement et autres. Que dire alors de l'étude des sciences religieuses pour devenir imam, étudiant ou juge islamique? Aujourd'hui, lorsqu'on demande à un jeune ce qu'il veut faire plus tard, il te répond « je veux devenir une star ». Et quand on lui demande dans quel domaine, car on pourrait espérer qu'il veuille atteindre ce niveau dans la religion de l'islam, tel l'imam Ahmed, ou encore dans un domaine qui profite à sa communauté et son pays, mais non, il répond « je veux être comme tel joueur de foot, comme tel acteur, comme tel youtubeur ou influenceur et autres ». Cela parce qu'on lui fait croire de partout que c'est ça la réussite et le succès. Voilà comment les ennemis de l'islam ont détourné la jeunesse de la science et de son étude. Un des autres moyens qu'ils ont volontairement mis à disposition de la jeunesse et dont ils se servent pour détourner la jeunesse de la science et de son étude, les smartphones et les réseaux sociaux. En effet, tout ceci est une grande calamité dont nous souffrons et nous plaignons de plus en plus. Si on regarde le temps qu'une personne passe sur son smartphone à surfer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, visionner telle et telle chose, ce sont des heures et des heures par jour. Alors qu'à côté de cela, cette même personne n'accorde dans sa journée que peu de temps à l'étude de la science, la lecture du Coran, l'apprentissage de la langue arabe et autres. Des fois, quand on observe des personnes dans une même pièce, dans un même foyer, on voit qu'ils ne savent plus communiquer que par message, où on voit chacun d'eux sur leur téléphone. Subhanallah, voilà comment cet outil, qui à la base est un bienfait dont Allah Azza wa Jal nous a fait généreusement grâce, car il permet de communiquer avec des personnes qui se trouvent à l'autre bout du monde, en quelques secondes. Alors qu'avant, il fallait voyager, écrire des lettres, tout cela mettait du temps. Mais cet immense bienfait dont Allah Azza wa Jal nous a fait généreusement grâce est malheureusement devenu pour certains une calamité. Les détournant de la véritable étude de la science. Voilà donc comment les ennemis de l'islam et de la sunna ont réussi par le biais de ce simple outil à détourner la jeunesse de l'étude de la véritable science, de sa mémorisation et autres. Nous devons donc prendre conscience de tout cela et de l'importance de la science. Sinon, si nous continuons dans cette direction, le résultat sera que la nation musulmane sera rapidement dans le même état que celui dans lequel étaient les ennemis de l'islam au Moyen-Âge. Et ceci est exactement leur objectif et ce qu'ils s'efforcent de faire. Ils veulent nous ramener à l'état d'ignorance dans lequel ils étaient avant. Aussi, si nous continuons dans cette direction, il ne faudra pas s'étonner dans 20 ou 30 ans de ne pas trouver de jeunesse musulmane. Que lorsque l'on questionnera un jeune à propos de sa religion, il ne saura plus rien répondre. Quand on lui demandera telle sourate du Coran, il sera incapable de la réciter. Lorsqu'on l'interrogera sur un hadith, il sera incapable de dire s'il est authentique ou faible. Quand on lui demandera si tel acte d'adoration doit être accompli de la sorte, il dira « je n'en sais rien ». C'est donc maintenant que tout se joue, que nous devons agir et remplir notre rôle individuel et communautaire. C'est maintenant qu'il faut accorder de l'importance à l'apprentissage de la véritable science et à l'éducation de nos proches, de nos conjoints et de nos enfants. Nous devons tout mettre en œuvre pour acquérir la véritable science, pour apprendre notre religion. On doit faire des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe, dans la mémorisation du Coran et des hadiths, dans l'étude des sciences religieuses, que ce soit dans le domaine de la croyance, l'aqid, du fiqh et autres sciences outils. Nous devons commencer par nous éduquer nous-mêmes avant de vouloir éduquer les autres et prendre des responsabilités dans la prédication. D'ailleurs, lorsqu'on veut profiter aux autres, on commence par les personnes qui nous sont les plus proches, comme les parents, les frères et les sœurs et les conjoints et les enfants. Voilà ce qui incombe à chaque musulman et musulmane, et c'est seulement ainsi que l'on se profitera soi-même et sera bénéfique pour les autres. Wa naktafi bihadha al-qadr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.